Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
2, c'est le nombre de voyages que le pape François a fait dans un pays musulman en moins de 2 mois, preuve de la grande préoccupation du Saint-Siège quant aux relations islamo-chrétiennes et à la montée des radicalismes. 2 voyages avec à chaque fois à la clé des déclarations fortes qui feront date. Mais l'actualité de l'Église dans le monde, c'est aussi la publication hier de l'exhortation apostolique Christus Vivit, texte qui fait suite au fameux synode des jeunes qui avait vu la réunion à Rome d'évêques et de jeunes du monde entier, un texte d'une grande force et fraîcheur. Bref, l'actualité de l'Église dans le monde ne manque pas encore ce mois-ci, l'occasion une fois encore pour nous chrétiens du Sud-Ouest de prendre conscience de la grande aventure dans laquelle nous sommes pris. L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec normalement, on espère arriver à le joindre, Nicolas Senez, journaliste correspondant à Rome du journal La Croix, et en plateau, Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
On va donc commencer finalement avec vous, en espérant qu'on arrivera à joindre Nicolas Senez comme prévu, qui nous fait l'amitié d'être présent le premier quart d'heure de cette émission chaque mois. On va parler de l'exhortation apostolique, publiée hier, en français entre autres, Christus Vivit, exhortation apostolique qui fait suite donc au synode des jeunes, 3e exhortation apostolique du pape François après Evangelii Gaudium et Gaudate et Exultate sur la sainteté. On pourrait citer le 4e texte que fut Laudato si, bref, un pape qui publie. Qu'est-ce qui vous a frappé, Philippe Dazébrun? Vous ne l'avez pas lu, mais vous l'avez parcouru. En bon journaliste, j'allais dire. Qu'est-ce qui vous a frappé? Je disais un ton plein de fraîcheur. Est-ce que c'est la chose qui vous a d'abord marqué?
Oui, tout à fait. Comme toujours, ce pape met en garde et recommande. Il met en garde notamment les jeunes par rapport aux tentations qui les assaillent et qui sont dues à la mondialisation, notamment à l'uniformisation. Il dit à chacun des jeunes qu'ils ont chacun une richesse et qu'il faut qu'elles servent le monde dans lequel ils sont. Il y a là, je crois, un appel qui correspond à la vision de l'Église, à la dimension théologique de l'Église concernant l'homme, que l'homme est unique et qu'il a une richesse propre qu'il doit faire fructifier dans la communauté à laquelle il appartient.
Si ça ne vous embête pas, on va citer des passages au fur et à mesure. Je vois, en tout cas en écho à ce que vous dites, un passage sur l'engagement. Je vous demande aussi d'être des protagonistes de ce changement. En d'autres circonstances, le pape François invitait les jeunes à être des protagonistes, à faire l'histoire. Continuer à vaincre l'apathie en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales, politiques présentes dans diverses parties du monde. Bref, oui. un bon coup de pied aux fesses, comme on pourrait dire avec simplicité.
Absolument. Mais voilà, l'apport de cette richesse personnelle doit aussi se mettre en lien avec les autres. Ça, c'est très, très, très frappant lorsqu'on parcourt ce texte. On voit bien qu'il y a un effort qui est demandé aux jeunes de s'ouvrir vers les autres générations, notamment. Il est très, 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 très intéressant, ce texte, sur l'aspect intergénérationnel. Et aussi, je dirais, ce que les jeunes peuvent apporter dans la richesse de l'Église, notamment par rapport aux prêtres. Il leur est demandé de donner, je dirais, vigueur ou redonner vigueur à des prêtres dont ils estimeraient qu'ils sont en distance par rapport à l'engagement premier qui fut les leurs. On peut citer
le passage, j'allais vous le demander.
Où il dit, voilà, quand vous voyez un prêtre en danger, parce qu'il a perdu la joie de son ministère, parce qu'il cherche des compensations affectives ou qu'il est en train de perdre le cap, ayez le courage de lui rappeler son engagement envers Dieu et avec son peuple, annoncez-lui vous-même l'évangile et encouragez-le à rester sur le bon chemin. On est là vraiment dans la dimension de ce pape qui critique finalement une forme de cléricalisme d'une part, mais aussi qui est dans la fidélité de Vatican II, de l'annonce de ce que nous sommes, c'est-à-dire le peuple de Dieu, de cette interpénétration en quelque sorte des vocations des laïcs et des clercs dans le salut de l'homme.
Alors c'est un texte qui dit aux jeunes toute la place qu'ils ont au cœur de l'Église, et qui laisse entendre aussi, comme ça avait été le cas à l'occasion des réunions de ce synode, l'importance de la jeunesse, de la place de la jeunesse dans la vie de l'Église. Qu'est-ce que vous avez noté sur ce sujet ?
Oui, il y a cette exhortation appelle les jeunes à bousculer un peu l'Église même, et appelle l'Église à se laisser bousculer par cette jeunesse, comme si la jeunesse finalement devait permettre à l'Église de retrouver sa propre jeunesse, n'est-ce pas ? Et c'est très frappant lorsque il dit que finalement les jeunes arrivent peut-être à être captivés par l'Église, mais que au final, au bout de quelque temps, ils finissent par s'ennuyer. Donc, il est très important pour l'Église de ne pas être, là je le cite, dans l'obsession de transmettre une accumulation de contenus doctrinaux, mais de faire vivre et fructifier en quelque sorte cette foi qu'ils ont dans le Christ.
Alors, je vais citer un autre passage. « Demandons au Seigneur de délivrer l'Église des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l'immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d'une autre tentation, croire qu'elle est jeune parce qu'elle cède à tout ce que le monde lui offre. » Voilà, donc double mouvement. J'ai noté aussi un autre passage sur l'exemple des jeunes saints. « Les jeunes saints nous poussent à revenir à notre premier amour. Il y a des saints qui n'ont pas connu l'âge adulte et qui nous ont laissé le témoignage d'une autre manière de vivre la jeunesse. Le pape François, là aussi, voilà, laisse entendre qu'il n'y a pas d'âge pour, j'allais dire, pour sentir bon le Saint-Esprit, en tout cas pour être rempli d'Esprit Saint.
Absolument. Il appelle tous ces jeunes à être des missionnaires. Et à travers les jeunes, nous-mêmes, qui ont un peu plus d'années qu'eux, cette dimension missionnaire est très importante. Hein. Il dit « Je suis une mission sur terre hein. ». Voilà, il faut que chaque jeune soit une mission sur terre. Ça, c'est fondamental.
Alors, un autre passage on pourrait, où il insiste sur l'approfondissement du kérigme. « Calmons l'obsession de transmettre une accumulation donc, de contenus doctrinaux, ça vous l'avez dit, l'essentiel est l'approfondissement du kérigme, l'expérience fondatrice de la rencontre avec Dieu par le Christ mort et ressuscité, l'autre est la croissance de l'amour fraternel dans la vie communautaire par le service. » Donc deux priorités, le kérigme et l'amour fraternel. Voilà, et j'avais noté aussi l'audace de la première annonce, c'est vrai que souvent la jeunesse a quand même plus d'audace, et il invite les jeunes donc à avoir l'audace de cette annonce. À propos de cette exhortation apostolique, alors on voulait cuisiner Nicolas Sonnez, qui est aux avant-postes, on va dire, de l'Église et de la publication de cette encyclique, mais de cette exhortation, on n'arrive pas à le joindre. On va revenir, en espérant que ça le décidera, sur le lieu où le pape François a signé cette exhortation apostolique. C'était le 25 mars dernier, donc jour de l'Annonciation pour l'Église universelle, l'annonce faite à la Vierge Marie, et c'était à Notre-Dame de Lorette. Pouvez-vous nous emmener à Notre-Dame de Lorette, Philippe Dazébrun,
oui,
et nous parler de ce lieu prisé des papes ?
Oui, pour une fois, je ne veux pas être historien, mais un peu géographe. Notre-Dame de Lorette se trouve dans la province d'Ancône, donc au cœur de l'Italie, et l'histoire de Notre-Dame de Lorette est liée à l'histoire de la maison de Jésus qui serait celle de la Vierge Marie initialement. Donc au IIIe siècle, paraît-il, Sainte Hélène serait rendue à Jérusalem et aurait élevé une église dans laquelle se trouvait la maison de Nazareth. Et,
donc la maison des parents de Marie.
Voilà, absolument. Et au XIIIe siècle, l'église en question menacée par les musulmans aurait été transportée par des anges vers la Croatie et puis de la Croatie vers l'Italie. Et ce sanctuaire finalement l'a été grâce à l'action des papes. Les papes ont été très attachés à Notre-Dame de Lorette assez vite. Et Jules II, le pape que l'on dit casqué, en 1507, l'a pris en charge directement, c'est-à-dire que Notre-Dame de Lorette est placée directement sous la tutelle pontificale. Et voilà comment, petit à petit, ce lieu est devenu à la fois un sanctuaire et un sanctuaire marial.
Pas d'explication au fait que l'origine n'est plus que supposée, on dit même que c'est une légende et que pourtant les papes ils ont un attachement fort.
Oui, tous les papes, enfin les derniers en tout cas, ont un attachement fort pour ce lieu dont il n'y a pas effectivement de raison de croire qu'il y ait un attachement historique qui soit autre que légendaire.
Donc, lieu aimé des papes. J'ai vu donc Jean XXIII jusqu'à Benoît XVI et après Saint Jean-Paul II y était allé à 5 reprises. Le pape François s'est donc rendu le 25 mars. Alors, il a donné une méditation sur le discernement. Il a confié en ce jour-là les vocations à la Vierge Marie. Marie est le modèle de toute vocation et l'inspiratrice de toute pastorale des vocations, en détaillant un peu les trois temps de la vocation à l'image de ce qu'aurait de ce qu'a vécu la Vierge Marie. Est-ce que vous avez retenu ces trois temps, écoute, discernement et décision?
Voilà, et à travers la vocation de la Vierge Marie, hein, dans l'écoute, l'écoute de la voix de Dieu, dans le discernement, hein, qu'est-ce que je fais de cette voix? Et ensuite, la troisième étape, c'est la décision, finalement. Finalement, la Vierge Marie dit oui à l'annonce qui lui est faite. Eh bien, le pape qui signe cette exhortation apostolique qui est destinée à la jeunesse, appelle la jeunesse à la vocation, à la mission dont on parlait tout à l'heure. Donc il y avait là une forme d'écho entre la célébration de Marie qui accueille la voix et qui dit oui, et celle de cette jeunesse qui peut entendre également la même voix et lui répondre oui.
L'autre chose, c'est que le pape a parlé aussi de la famille. En ce lieu, il a utilisé cette expression, la maison de Marie, c'est aussi la maison de la famille, avec cette autre phrase, ne tombez pas dans cette culture du gaspillage proposée par les multiples colonisations idéologiques qui nous attaquent aujourd'hui. Ça, c'est une phrase qui revient souvent aussi dans la bouche du pape François. Il a quelques phrases clés comme ça, la culture du déchet, entre autres, à propos d'un certain système économique et la colonisation idéologique. Qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça?
Oui, c'est une parole forte, hein. C'est toujours l'esprit qu'on lui connaît, de la dénonciation d'une société qui est une société d'apparence et qui n'a aucune profondeur, qui n'a aucune espèce de lien avec les générations qui nous ont précédés et les générations qui nous suivent. Voilà, c'est l'esprit, si vous voulez, de toutes les encycliques depuis Vatican II qui nous mettent dans une dimension qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici sur cette terre dans une forme d'isolement, dans une forme d'individualisation, mais au contraire, on est solidaire des générations passées et des générations à venir. Et donc, on a un sens de la responsabilité. Donc, une dénonciation de la société de déchets.
Voilà, Christus vivit, exhortation apostolique du pape François à l'adresse de la jeunesse, mais pas que, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, à défaut de l'avoir en ligne, me semble-t-il. On va faire une première pause en espérant que Nicolas Senet sera revenu entre-temps pour nous parler du voyage du pape au Maroc. C'était le 30 et le 31 mars dernier.
Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Avec autour du plateau, nous a rejoint Nicolas Senez, journaliste correspondant à Rome du journal La Croix. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Voilà, et toujours avec nous Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. Alors on est bien heureux d'avoir réussi à vous joindre, Nicolas. Alors il y a du bruit derrière vous, c'est peut-être les ambulances italiennes. On voulait revenir avec vous donc sur le voyage au Maroc du pape François. C'était donc le 30 et 31 mars dernier. Comme je le disais, en deux mois, le pape François s'est rendu à deux reprises dans un pays musulman, puisque pour rappel, du 3 au 5 février, il s'était rendu dans les Émirats Arabes Unis. Ma première question, toute simple, ça serait est-ce un pur hasard, Nicolas Senez? On a du mal à imaginer que le Saint-Siège fasse les choses par hasard.
Alors, c'était absolument pas par hasard. Les deux voyages entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis étaient totalement liés. Hein. C'était vraiment cette volonté de la part du pape François de dialoguer, d'insister sur le dialogue interreligieux, et en particulier deux pays, hein, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, qui sont deux pays qui, dans le paysage musulman, essayent d'impulser un début de réforme de l'islam et de réconciliation entre l'islam et la modernité.
Alors, il y a un peu de musique derrière vous, et puis pensez à bien parler près du combiné. Oui. On imagine que vous n'êtes pas toujours maître de l'ambiance autour de vous.
C'est l'audience générale en fait du pape François qui est en train de commencer, où justement il devrait revenir hein, sur son voyage au Maroc.
D'accord, bon bah comme ça on est en plein dans l'actualité. Alors si on devait revenir sur les temps forts de ce voyage au Maroc, donc évidemment il a été accueilli par Mohamed VI, le souverain de ce pays, qui est aussi, il faut le rappeler, je vais vous laisser le faire, donc un descendant de la famille du prophète, donc c'est un chef d'État, mais aussi un chef religieux. Réexpliquez-nous ça en quelques mots pour ceux qui ne seraient pas au courant.
Oui, traditionnellement le roi du Maroc est ce qu'on appelle commandeur des croyants, c'est-à-dire qu'il est à la fois donc le responsable politique, mais il a également une autorité religieuse forte auprès des musulmans du Maroc. Donc effectivement, ça joue beaucoup dans la prise qu'il peut avoir sur les questions religieuses, où il peut vraiment décider des choses et impulser des changements. Et c'est vraiment ce sur quoi il se retrouve hein, avec le pape François. Sur cette volonté de pousser les religions au dialogue sur la paix. Et c'était très important, par exemple, un des moments forts de cette rencontre, de ce voyage, ça a été la visite que le pape François a faite le samedi après-midi à un institut, qui porte justement le nom de Mohamed VI, hein, de formation d'imams et de prédicateurs.
Voilà, où de nombreux imams sont formés aussi.
Alors, il y a des imams français, grosso modo, hein, il y a un peu plus de 1000 imams qui sont formés là, imams, prédicateurs, prédicatrices, c'est des femmes aussi qui sont formées. On va dire moitié de Marocains, moitié d'étrangers, avec une forte présence d'Afrique noire, et puis effectivement un nombre assez important de Français, de Belges. Et par exemple, hein, on a eu ce témoignage devant le pape d'un jeune Français d'origine marocaine qui racontait comment, après les attentats de 2015 en France, il a pris conscience de la nécessité de se former à cet islam ouvert hein, qui est proposé par le Maroc. Pour aujourd'hui, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, et dans l'optique de pouvoir revenir en France, apporter ce nouveau regard sur l'islam, justement pour contrer les discours de haine, les discours djihadistes qui font fleurir dans notre pays. Donc c'est vraiment important d'avoir cette volonté du pape François de aujourd'hui dire aux gens avec qui il peut discuter dans l'islam, finalement les mettre devant leurs responsabilités en leur disant, mais aujourd'hui, nous, les religions, nous sommes confrontés à un choix clair, c'est le dialogue ou la guerre.
Nicolas Senez, lors du voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis, avait été signé avec le responsable de l'université Al-Azhar un document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune. Là, il y a eu un appel commun pour Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous en résumer la teneur? Donc, appel qui a été signé conjointement par le pape François et le roi Mohamed VI.
Alors, ces deux documents vont un peu dans le même sens. En fait, c'est la volonté de François. Et ici, pour le Maroc, c'est finalement recueillir les fruits du dialogue. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les musulmans au Maroc, les catholiques, qui s'engagent sur cette question importante de part et d'autre du statut de Jérusalem. On sait qu'aujourd'hui, du fait de la décision de l'ambassade des États-Unis de transférer leur ambassade de Tel Aviv, qui est la capitale internationalement reconnue par la communauté internationale d'Israël, à Jérusalem, qui est la capitale, on va dire, constitutionnelle d'Israël, mais pas reconnue par le reste de la communauté internationale, ce geste a fragilisé ce sur quoi, en particulier, l'Église catholique est très attachée, c'est-à-dire le statut particulier de Jérusalem comme ville commune aux grandes traditions religieuses et à laquelle les croyants des différentes religions doivent pouvoir accéder librement. Et la grande crainte de l'Église catholique, c'est que ce statut particulier soit effacé par l'action internationale et par la politique d'Israël. Alors, ce texte-là était vraiment une volonté de dire nous chrétiens, nous catholiques, nous musulmans, nous défendrons ce statut de Jérusalem. Alors ensuite, avec cette particularité que justement dans le texte,
je vais en
citer. Au Vatican, c'est très important. Il y a ce que dit le texte, mais aussi ce que ne dit pas le texte.
Alors je vais citer un passage. Nous souhaitons par conséquent que dans la ville sainte soit pleinement garantie la pleine liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte, de sorte qu'à Jérusalem s'élève de la part de leurs fidèles la prière à Dieu créateur de tous pour un avenir de paix et de fraternité sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette déclaration, Nicolas Sonnez?
Eh bien, il n'y a pas ce qu'on a dans beaucoup de déclarations, en particulier côté musulman, c'est-à-dire, on va dire, des attaques vis-à-vis d'Israël ou des critiques sur la colonisation. Le texte garde bien d'être une mise en cause d'Israël, et c'est simplement un rappel de cette volonté, et y compris de dialogue, et y compris de dialogue vis-à-vis du judaïsme, puisque c'est bien les trois religions qui sont monothéistes qui sont cités, donc y compris le judaïsme, et de reconnaître la part majeure que Jérusalem a effectivement dans le judaïsme. Et c'est dû aussi au fait que le Maroc, historiquement, a toujours eu une position dans le monde arabe de dialogue vis-à-vis d'Israël. Le roi Mohamed V, le roi Hassan II ont protégé les juifs marocains, y compris après les guerres israélo-arabes. Et ça, il y a toujours une tradition de fil qui n'a jamais été rompue, en fait, entre le Maroc et Israël. Et ça, il y a cette volonté, effectivement, de la part du pape, de la part du roi du Maroc, de ne pas rompre avec Israël, quand bien même, aujourd'hui, la politique israélienne serait problématique pour eux, y compris quand Benjamin Netanyahou prend des positions qui sont difficiles pour les musulmans.
J'aimerais aussi que l'on parle de la déclaration que le pape François a faite donc sur la liberté religieuse. Il ne s'en était pas privé lors de son voyage aux Émirats Arabes Unis. Il a eu à nouveau le même courage. Je vais citer un extrait. La liberté de conscience et la liberté religieuse qui ne se limitent pas à la seule liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conscience religieuse, sont inséparablement liées à la dignité humaine. Déclaré le pape François, et puis invitant encore à passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui. Ce n'est pas rien, dans un pays dit modéré comme le Maroc, si je ne me trompe pas, on ne peut pas changer de religion, Nicolas Sonnez.
Alors, changer de religion est difficile. Les Émirats Arabes Unis, là où on était, ils risquent la mort, et en même temps, il y a une grande possibilité pour les chrétiens d'exprimer leur existence. Moi, au Maroc, parce que la communauté chrétienne est beaucoup plus petite. Ceci dit, il y a la possibilité quand même, mais de façon, on va dire, cachée, de changer de religion. Donc, ce que nous disait le pape, on l'a interrogé au retour dans l'avion, il y a aussi quand même cette possibilité de croire en une évolution de l'islam. Et il dit la liberté de conscience est quelque chose qui progresse effectivement au sein de l'islam, en tout cas dans certains pays, dont le Maroc, les choses changent. Et il a eu cette phrase qui est aussi de dire, mais nous aussi, n'oublions pas que nous aussi, côté chrétien, nous avons évolué. Il y a 300 ans, bien, les hérétiques étaient brûlés. L'Église ne mettait pas qu'on puisse quitter le catholicisme. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de catholiques refusent la question de la liberté de conscience telle qu'elle est définie dans Vatican II. Et puis, il a eu cette petite phrase en disant que aujourd'hui, l'Église l'accepte, mais cette liberté de conscience, elle est aussi menacée dans un certain nombre de pays dits chrétiens, par exemple, quand des médecins se voient refuser la question de l'objection de conscience. Donc voilà, il replace quand même cette question de la liberté de conscience de façon beaucoup plus large, en disant attention aux critiques que nous faisons à des pays ou à des religions qui sont en plein bouleversement et en pleine évolution. Nous avons fait ce chemin-là, mais nous aussi, ce chemin reste menacé aussi chez nous.
Enfin, Nicolas Senez, à propos de ce voyage, je propose d'insister sur la question des migrations, puisque le Maroc est un lieu aujourd'hui d'arrivée de nombreux migrants et puis de départ vers l'Europe. Le pape François a réagi à l'accord de Marrakech, signé il y a quelques mois, disant qu'il faut passer des engagements pris avec ce document à des actions concrètes et spécialement un changement de disposition envers les migrants qui les considèrent comme des personnes et non comme des numéros. Et un peu plus loin, on ne trouvera aucune solution dans la construction de barrières, dans la diffusion de la peur de l'autre ou dans la négation de l'assistance. Bref, le pape François ne change pas de leitmotiv et c'est une déclaration forte que de vouloir que ce fameux accord de Marrakech soit appliqué, qui a été quand même largement critiqué en France, y compris parfois chez les chrétiens.
Oui, alors il redit son discours qui est souvent mal compris parce que c'est un discours en plusieurs, où il tient deux choses à la fois. C'est-à-dire, il insiste sur l'accueil qui doit être inconditionnel et en particulier l'accueil, on va dire, d'urgence pour ceux qui se noient en Méditerranée. Il insiste beaucoup sur les droits des migrants, mais aussi leurs devoirs. Il a aussi beaucoup parlé de leur devoir de s'intégrer, de respecter les lois des pays qui les accueillent. Et puis, il insiste aussi, troisièmement, sur le droit les migrants, avant qu'ils partent de chez eux, il parle de leur droit d'émigrer, mais aussi leur droit de ne pas être contraints à l'émigration, et donc sur l'action que nous, pays occidentaux, nous pouvons avoir dans les pays d'origine, qui fait que nous poussons un certain nombre d'entre eux à émigrer. Donc, c'est tout ça qu'il tient ensemble, et effectivement, chacun, on a plutôt tendance à retenir tel ou tel point et à critiquer l'autre, ou à le critiquer sur l'accueil des migrants et à insister sur le fait que non, les migrants doivent rester chez eux. Voilà. Donc, il a un discours très cohérent, très construit, qui est très souvent caricaturé. Je trouve qu'ici, au Maroc, il l'a très bien réexpliqué en tenant bien les différents bouts de la chaîne de la migration.
Voilà, donc ce pacte mondial qui avait été signé donc en décembre 2018, le pape François qui dit que c'est une référence pour toute la communauté internationale et qui réclame au gouvernement l'élargissement des canaux migratoires réguliers et s'élève contre les formes d'expulsion collective qui ne doivent pas être acceptées. Merci beaucoup Nicolas Senez d'avoir pris du temps. On vous laisse donc avec le pape François dans quelques instants. On va pas tout de suite faire une pause musicale. Je voulais vous demander quelques réactions, Philippe Dazébrun, à propos donc de ce voyage du pape François au Maroc. Je vais vous laisser d'abord réagir, puis après je vous poserai mes questions. Est-ce que ça vous inspire quelques réactions ?
Moi, je pense que effectivement, dans le cadre actuel qui est difficile de dialogue religieux et interreligieux, la solution qu'essaie de trouver le pape François est la meilleure, dans le sens où il y a des pays gouvernés par des régimes qui sont tout à fait ouvert au dialogue et qui ont compris que il fallait, pour sauver la paix, rentrer en dialogue avec les chrétiens. Donc je pense que au lieu de fermer la porte, il est toujours heureux d'ouvrir la porte au dialogue. Donc le pape, en cela, tout en restant ce qu'il est et en disant ce que nous avons l'habitude d'entendre de lui depuis qu'il est sur le trône de Pierre, aboutit à la démarche qui est la plus salvatrice dans un monde où on a une tendance, et on va le voir en Inde tout à l'heure, ou on le voit en Europe, sur le repli sur soi. On revient sur ce que nous disions tout à l'heure, la vocation du chrétien, c'est la mission. La mission, c'est l'ouverture à l'autre. C'est d'annoncer la parole, mais dans le respect de l'autre.
Et c'est faire œuvre de paix.
Absolument.
Néanmoins, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui trouvent, alors pardon si certains sont choqués par ma remarque, mais qui pourrait y avoir comme une forme de naïveté du pape François à l'égard de l'islam? J'entends par exemple la remarque que vient de faire Nicolas Senez sur le processus qui toucherait toute religion de reconnaissance progressive de la liberté de conscience.
Naïveté, mais est-ce que le Christ, en délivrant la parole qui était la sienne, était naïf? Il portait un message d'amour. Je crois que dans une situation dans laquelle nous sommes d'extrême violence partout dans ce monde, le rôle du pape est d'apporter une parole d'amour. Et ce qui peut être considéré comme une défaite, peut-être en fait une victoire. Il n'y a qu'à voir du pied de la croix ce que nous avons. Nous avons apparemment une défaite. Et au final, nous avons quand même une victoire. Donc je pense que la naïveté, c'est un propos de pessimiste. Il faut résolument, quand on porte la foi dans son cœur, être optimiste parce qu'on sait que l'amour seul peut vaincre.
Le pape François aussi, qui, ça me fait penser dans son exhortation apostolique, Gaudete et exultate sur la sainteté, quand il fait le commentaire sur les béatitudes à propos de la douceur, il dit que c'est le style de Jésus, rappelant qu'il était rentré dans Jérusalem doux et humble de cœur sur le dos d'un âne, et disant en fait on finit toujours par gagner quand on choisit la douceur, et donc on imagine aussi une certaine forme de non-violence. Alors avant de faire une deuxième pause, vous vouliez nous parler de l'Inde et du Pakistan. Le 1er mars dernier, le cardinal Oswald Gracia, archevêque de Bombay et président de la conférence épiscopale indienne, a fait une déclaration. Nous prions et travaillons pour la paix entre l'Inde et le Pakistan et nous lançons un appel aux gouvernants pour qu'ils choisissent la voie du dialogue, et ce dans un contexte de grande tension qui ne date pas d'hier, qui fait suite entre autres à un attentat qui a eu lieu le 14 février dernier, pour rappel, attentat dans la partie indienne du Cachemire qui avait vu la mort de 40 paramilitaires indiens. Comment pouvez-vous contextualiser cette déclaration, cet appel à la paix du cardinal Oswald Gracia, archevêque de Bombay?
Oui, voilà un conflit dont on n'entend quasiment jamais parler et qui pourtant envenime les situations dans le sud de l'Asie, et ce depuis la partition de l'Inde, n'est-ce pas, qui était colonie britannique, en 1947.
Et de deux puissances nucléaires aujourd'hui.
Deux puissances nucléaires par-dessus le marché. Effectivement, nous sommes là dans une situation de deux États qui ont été constitués à l'époque selon les confessions de la majorité des populations. Donc le Pakistan, d'un côté, qui était porté par la Ligue musulmane d'Ali Jinnah, et de l'autre, l'Inde, en majorité hindoue, qui demandait l'indépendance grâce au parti du Congrès qui était, lui, dirigé par Nehru et par la figure de la non-violence que l'on connaît, qui est le Mahatma Gandhi. Et donc, il y a des zones de frontières entre ces deux États, comme le Cachemire, qui ont été partagées. Et l'un des deux États revendique la partie qui est à l'autre et vice-versa. Le Cachemire est dans cette situation. Donc on a depuis 1947 des guerres, on a eu trois guerres qui opposent ces deux États, et les islamistes radicaux enveniment la situation du côté pakistanais, puisqu'il y a eu cet attentat le 14 février qui a fait 40 morts, avec une réplique.
Voilà, alors une réplique donc le 26 février, où les forces armées et aériennes, donc indiennes, sont allées frapper un grand camp militaire du groupe islamiste Jaïd-e-Mohammed, si j'ai bien compris, JEM, à Balakot, et puis s'en est suivi donc deux militaires qui ont été faits prisonniers et qui ont été rendus par les forces pakistanaises le 1er mars dernier, c'est ça?
Voilà, exactement. Mais alors, cette riposte indienne n'a été possible qu'avec l'accord, l'assentiment général, c'est-à-dire qu'on a bien une population indienne qui a été indignée par cet attentat et qui réclamait la riposte et la vengeance, finalement. Alors, avec une forme d'impunité de la part de ces gouvernements, parce qu'ils estiment qu'ils frappent chez eux, Hein. Lorsque les islamistes frappent dans le Cachemire indien, ils estiment que c'est chez eux. Idem lorsque la réplique indienne a riposté à l'attentat islamiste. Néanmoins, dans cette situation, on a quand même des voix qui appellent à la paix. Et vous avez fait effectivement référence au cardinal Oswald Gracias, qui appelait à cette troisième voie, en quelque sorte. Et de l'autre côté...
Et qui parlait aussi au nom des catholiques pakistanais.
Et voilà, on a la Commission nationale justice et paix du Pakistan, qui est dirigée par Monseigneur Arshad, qui appelle également à la paix. Et avec aussi un appel à un tiers. Et là, je crois que la communauté internationale, qui détourne quelquefois son regard de cet endroit-là, qui est très épineux, devrait se saisir de cette situation, tout comme elle peut se saisir de la situation dont on parlait tout à l'heure, entre Israël et la Palestine.
Philippe de Zébrun, juste une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause musicale. On peut aussi se dire que la voix des évêques, contrairement à d'autres pays, on avait parlé dans des précédentes émissions de la République démocratique du Congo ou des Philippines, ne pèse pas bien lourd en Inde et au Pakistan.
Là, en effet. Mais il faut dire que la population catholique est très minimale hein, dans ces ensembles démographiques qui sont assez monstrueux.
200 millions d'habitants pour le Pakistan.
Voilà. On a à peu près, par exemple, dans un état du nord de l'Inde, on a 5% de catholiques pour une population de 32 millions d'habitants. Donc, que peut peser un évêque dans ce contexte-là ? Pas grand-chose, mais enfin, je pense que la voix qu'il porte est une voix de la raison, du cœur et de la raison. Je crois qu'à terme, elle finira par triompher.
Voilà, la voix du bien, on peut toujours espérer qu'elle porte quand même quelques fruits. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour exception, compte tenu d'une actualité, on va dire, de la vie de l'Église dans le monde, peut-être moins fourni que d'habitude, exception, on parlera des prochaines élections européennes, la position des évêques d'Europe et de France sur ces élections, et puis on vous demandera un petit mot sur l'affaire Barbarin.
Radio Présence sur le COS 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pellat.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Émission mensuelle, on fait un tour d'horizon donc de l'actualité du pape François et des églises dans le monde. Et là, exception à la règle, on va parler un petit peu de l'Europe, même si l'Europe, c'est aussi les églises dans le monde, et de la France. Autour du plateau, Nicolas Senez, journaliste correspondant à Rome du journal La Croix, qui était avec nous donc presque au début d'émission, et Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse. À propos des élections européennes, j'ai parcouru donc le discours d'ouverture de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, puisque nos évêques sont en assemblée plénière à Lourdes en ce début de semaine, ou tout au long de la semaine, me semble-t-il, du 2 au 5 avril. Ce début de semaine. Et dans ce discours d'ouverture assez sombre, de Monseigneur Pontier, dans lequel il laisse entendre qu'il y a un grand malaise en France et en Europe, qui s'inquiète de bien des choses, et on peut le comprendre. Il parle de l'Europe, une Europe en incertitude, dit-il. Dans 2 mois auront lieu les élections européennes. Ici encore, le climat ambiant s'est obscurci. La sortie des Britanniques de l'Union européenne, la montée des populismes très critiques envers Bruxelles, la question des migrants dans plusieurs pays, le débat sur les compétences confiées au Parlement et à la Commission européenne et sur celles que doivent conserver les États, tout ça donne une situation, donc un climat ambiant obscurci, au dire de l'archevêque. Qu'est-ce que vous avez noté sur ce volet, si ça n'est pas dans le discours d'ouverture, dans la déclaration des évêques français ou européens à propos de ces prochaines élections? Philippe Dazébrun.
Les épiscopats se saisissent effectivement de l'actualité, et d'une actualité qui revêt effectivement quelques aspects plutôt inquiétants. Le 14 février dernier, la Commission des épiscopats de l'Union européenne avait déjà émis un texte concernant le rendez-vous que représentent les élections européennes. Et donc il n'est pas étonnant que l'épiscopat français, le 25 mars dernier, ait émis un texte signé par quelques évêques et l'archevêque de Marseille en tête.
Élections européennes, quelle Europe voulons-nous? C'est le titre de cette déclaration.
Absolument. Alors, d'abord, ils partent d'un constat qu'ils ne partagent peut-être pas, mais en tout cas d'un constat qui est que pour beaucoup de concitoyens français, ils considèrent que l'Union européenne, en tout cas, semble, disent-ils, lointaine, technocratique et souvent inefficace. Donc effectivement, il y a une crise, me semble-t-il, de la reconnaissance des institutions européennes en France, mais aussi ailleurs en Europe, hein, puisque les populismes que l'on voit ici et là s'exprimer, et je pense notamment à nos chers amis anglais qui sont en plein hystérie du Brexit, c'est aussi révélateur d'une crise vis-à-vis de l'Europe.
Crise qui ne date pas d'hier, Monseigneur Pontier le s'entendre. L'Europe n'a pas bonne presse, c'est une banalité, dit-il presque dans son discours.
Ah oui, c'est vraiment une banalité, mais alors c'est la raison pour laquelle le texte rappelle certaines choses qui me semblent tout à fait fondamentales, avec une autre exhortation qui est la leur, celle d'appeler les citoyens catholiques d'aller voter. C'est ça l'objectif, hein. Il faut que les citoyens catholiques aillent voter. Alors, quel rappel? D'abord l'histoire. L'histoire nous rappelle tout de même que l'histoire de l'Europe fut, disent-ils, douloureuse, terrible. Bon, les guerres mondiales, enfin on peut...
Trois guerres franco-allemandes en moins d'un siècle, 2 guerres mondiales qui ont été déclenchées.
Absolument. Et la guerre qui gronde à nos portes, car tout ceci se fait à quelques heures d'avion d'ici, et donc on n'est pas à l'abri de connaître ce genre d'épouvantable tragédie sur notre sol européen occidental.
Vous parlez de l'Ukraine, là, en l'occurrence.
Je parle de l'Ukraine, mais voilà.
Et il y a eu les Balkans précédemment,
absolument.
Rappelle-t-il.
Donc on a un rappel aussi du fait que au final, tous ces pays européens partagent les mêmes valeurs. Nous sommes dans le même creuset. Et des valeurs, disent-ils, qui ont quelque chose quand même à voir avec le christianisme, même si au moment de la Constitution européenne, vous vous en souvenez peut-être, c'était posé la question du prologue, enfin de la préface au texte, allait-on ou pas proclamer les racines chrétiennes de l'Europe. Alors on sait très bien quelle a été la position unanime à la fois de Jacques Chirac et de Lionel Jospin pour une fois d'accord, pour exclure les racines chrétiennes du préambule de la Constitution qui était en écriture à l'époque. Donc, les évêques rappellent que nous avons ces valeurs en commun et qu'elles sont, elles ont quelque chose à voir avec le christianisme.
C'est pas pour vous couper, hein, pardon, mais c'est pour citer des extraits de ce document. Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l'homme et de la société qui comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays. Droit humain, respect de la personne, solidarité, recherche d'un bien commun.
Oui, et donc fort de cela, fort de ce passé, fort de l'histoire, n'est-ce pas, qui nous donne quelquefois des leçons, eh bien, il faut se tourner vers l'avenir. Et les évêques nous disent, finalement, nous ne ferons rien seuls. Face aux questions qui sont posées à nos sociétés actuelles, qui nous dépassent. Qui dépasse les frontières nationales, la question démographique, la question des migrants, la question de la mondialisation économique, on ne peut pas apporter de réponse seul. Alors, il ne parle pas des géants qui, nous toisent en attendant notre division pour nous jeter pour se jeter sur nous.
Ils le disent pas comme tel, mais ils laissent entendre qu'il y a d'autres ensembles en construction, Amérique du Sud, Asie, etc.
C'est... Absolument. Mais en tout cas, ils rappellent la vocation de l'Europe, qui est de proposer quelque chose au monde qui soit fort des valeurs que je rappelais tout à l'heure. Et ils rappellent que l'Europe doit être cheville ouvrière, c'est le terme, et fer de lance de propositions que nous pouvons apporter à la communauté humaine.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, en lisant ces documents, et je dis ça sans aucune critique à l'égard des évêques, hein, mais on peut avoir le même sentiment à propos des questions de bioéthique. Dans son discours d'ouverture, Mgr Pontier laisse entendre que dans les révisions actuelles, il faut refuser l'eugénisme libéral qui est insidieusement en train de devenir le nôtre et d'imprégner nos mentalités, que nos évêques se sentent bien impuissants, en fait, face à la montée de ces populismes et que... Non, ça vous a pas frappé dans cette déclaration ?
Non.
On a presque l'impression de le lire entre les lignes, mais c'est peut-être moi qui extrapole.
Tout à fait d'appréciation. Moi, je pense que aucune parole de paix n'est inutile. Il nous rappelle que depuis que la construction européenne est en marche, et du reste, il souligne que l'Église a toujours été un vecteur de paix dans cette construction, toutes ces paroles de paix sont toujours bonnes à dire. Enfin, si l'Église se dessaisit de cette parole, même si dans l'action elle n'est pas première, que peut-elle être ?
Philippe Dazébrun, pour finir, il nous reste 2-3 minutes. Je voulais vous demander une réaction à l'affaire Barbarin. Ça peut paraître bizarre peut-être à certains auditeurs tout d'un coup comme ça que cette affaire vienne au milieu, mais je me suis dit que voilà, eu égard à votre engagement de chrétien et à votre engagement à Radio Présence et puis à vos différentes responsabilités, il pouvait être intéressant d'avoir votre son de cloche. Le pape François a refusé la démission du cardinal Barbarin au nom du respect de la présomption d'innocence. Ça n'a pas toujours été bien compris en France, parfois même au sein de l'Église. Vous me faisiez mention d'un évêque en France qui avait dit être surpris de cette décision. Quel est votre sentiment ?
Moi, je pense que dans la société telle que dans laquelle nous vivons, il y a deux tendances qui sont en train de confluer, qui est une tendance lourde et une tendance plus effervescente, je dirais. La tendance lourde, c'est une révolution qui est comparable, Michel Serres le dit, à celle que nous avons connue pendant la Renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une révolution des techniques qui fait que nous ne savons pas dans quel monde nous allons. C'est bien, le pape le dit d'ailleurs, que nous allons entrer dans un autre monde. Ce n'est pas la transformation du monde, c'est véritablement un autre monde dans lequel nous allons. Donc nous sommes en pleine révolution, donc en plein bouleversement. Et par rapport à cela, on a l'effervescence. L'effervescence, c'est quoi ? Sur cette tendance lourde de révolution, c'est tout ce que les médias dont vous êtes, les réseaux sociaux peuvent apporter d'immédiateté de nouvelles qui ne sont pas toujours justes, qui ne sont pas toujours vraies et qui sont colportées par les tweets ou par je ne sais quoi. Bien. Donc, dans ce moment-là de transmutation, il faut s'attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire ce que, depuis l'habeas corpus, en passant par la Déclaration des droits de l'homme, nous avons ce dont nous avons hérité. Et il y a un principe qui est le principe de l'innocence de celui qui est dans le cadre judiciaire, qui est en procès. Et il n'y a pas de condamnation, s'il n'y a pas de condamnation effective, cet homme-là est innocent. Je pense que le cardinal Barbarin, ayant été rejeté appel, n'est donc pas condamnable, jusqu'à ce que la justice le dise. Et l'attitude du cardinal sur ce plan est tout à fait, imparable. Il reste en poste parce que le pape le veut, et il se met en retrait par rapport à son diocèse, pour ne pas laisser envenimer une situation qui, quelquefois, écoute trop les médias, les réseaux sociaux, alors qu'il faut raison garder et s'attacher à ce que la justice peut dire.
Eh ben, merci beaucoup, Philippe Dazébrun, de nous avoir partagé votre point de vue. C'est vrai que ça fait du bien aussi de l'entendre. Un grand merci à vous et merci à Nicolas Senez. Et rendez-vous est donné le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.